Aujourd'hui, dans Enjeux de santé, nous nous intéressons à des troubles qui touchent environ un enfant sur 68, ceux du spectre autistique dit TSA. L'autisme est un trouble du développement d'origine neurobiologique dont le diagnostic se fait sur la base de caractéristiques de comportement et de développement. Trois éléments caractérisent l'autisme : un trouble de la communication, une perturbation des relations sociales et des troubles du comportement. Les manifestations de l'autisme peuvent varier d'un enfant à l'autre et chez un même enfant dans le temps, altérant parfois le délai de diagnostic. Selon le pays, la reconnaissance des TSA et leur prise en charge varient. Alors qu'en est-il en France ? La France a reconnu récemment son retard sur la question en investissant davantage sur l'accompagnement et l'insertion. Mais comment sont soutenus les enfants et leurs familles ? C'est sur cette question qu'œuvre entre autres l'association Autismed 35, puisque si ces troubles touchent en premier lieu l'enfant qui en est atteint, la famille et l'entourage peuvent également être affectés. Informer, sensibiliser, soutenir sont les maîtres mots d'Autismed 35 et j'ai pu en discuter avec son président Thierry Jardin.
L'association Autismed 35 est née en avril 2013. Aujourd'hui, donc nous allons vers notre quatrième année d'activité. Une activité qui est portée principalement sur l'accompagnement, la diffusion d'informations, de connaissances, le partage des connaissances liées au monde de l'autisme. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'autisme, quelquefois bien, assez souvent mal. Il s'agit effectivement de permettre à un large public d'avoir des connaissances et de se faire ses propres connaissances et ses propres réseaux de liés à l'information que l'on peut apporter. Il s'agit donc de travailler principalement, non pas à se faire connaître au niveau de l'association, mais principalement à permettre à ce que les familles puissent avoir dans les environnements qu'ils rencontrent liés aux troubles autistiques, à trouver des solutions. Les solutions, elles existent sur le territoire français, breton, rennais. Et il s'agit effectivement d'accompagner ces familles de façon à ce qu'on ne perde pas de temps. Parce que souvent, on se rend compte que lorsque nous sommes appelés, eh bien, c'est que nous sommes dans des situations déjà critiques vis-à-vis de l'enfant en milieu scolaire, en milieu ordinaire, et dont la présence est remise en cause par tout un ensemble de professionnels qui ne sont pas forcément informés correctement ou formés à l'autisme.
L'autisme, pendant l'enfance, donc, touche les enfants, mais touche inévitablement les familles aussi. Comment vous procédez, vous, dans votre association, pour aider justement les relations au sein d'une famille ?
L'autisme est un trouble qui jette le trouble sur toute la famille, et la fratrie en particulier, déjà parce que lorsque on apprend que l'enfant est différent, on n'a pas forcément de diagnostic. Hein. On a un retard en France lié au diagnostic autistique très très important, ce qui fait que lorsque nos enfants se développent différemment, nous sommes un petit peu confrontés à la mauvaise éducation, au regard lié à une mauvaise éducation, qui n'en est pas une, mais qui est jugée comme telle. Au sein de la famille, c'est vrai que l'enfant autiste va avoir des besoins complètement différents d'un enfant neurotypique. Et que la place qu'il prend, l'accompagnement et la façon dont les parents vont devoir apprivoiser son autisme, leur demande des connaissances, mais en même temps beaucoup, beaucoup de temps. Et on demande aussi, bien évidemment, à la fratrie de pouvoir s'épanouir, mais ça reste compliqué puisque aujourd'hui, les structures qui devraient justement, comme l'espace autisme de Rennes, qui est lié au centre de ressources de Brest, qui devrait pouvoir permettre aux familles d'avoir du soutien, bien non pas le temps. Il y a énormément de dossiers en souffrance. Il faut compter quand même 150 dossiers en souffrance de jeunes qui ne sont pas accompagnés et dont les parents se retrouvent démunis. Le centre de ressources nous les envoiera pour essayer de mettre en place ensemble des solutions telles que les ateliers d'habileté sociale qui permettent à l'enfant ou aux jeunes de comprendre les codes de communication qui sont en vigueur aussi bien dans les familles, au sein des familles que dans la vie ordinaire. La difficulté, c'est qu'effectivement, il faut agir vite et que quand on est sollicité, bien souvent, c'est que la situation est devenue dramatique.
Vous parliez également d'informer les familles. Vous les informez sur les droits qu'ils peuvent faire valoir justement pour aider leur enfant ?
Aujourd'hui, le handicap est compensé tant qu'il est reconnu comme tel, comme handicap. Le problème de l'autisme, c'est qu'on est sur un handicap invisible et que tant que effectivement la problématique du diagnostic n'est pas résolue, on se retrouve effectivement avec des familles qui sont démunies d'informations et donc de connaissances liées justement à la prise en charge. Il est évident que les prises en charge qui sont proposées dans le cadre de l'autisme sont comportementalistes et elles coûtent assez chères dans la mesure où elles ne sont pas prises en charge par les systèmes ordinaires du sanitaire. Ce qui fait que nous, on est là aussi pour les guider lorsque je dirais, les enfants ont un ressenti autistique dans les écoles, dans différents lieux de vie, pour que les choses se mettent en place liées à une reconnaissance du handicap et donc utiliser les outils qui permettent à la MDPH, donc la maison départementale du handicap, de passer en commission et de les reconnaître effectivement, on va dire, handicapés avec un pourcentage d'autonomie ou pas qui permet aux parents de récupérer l'argent nécessaire, donc l'allocation enfant handicapé, pour justement faire pratiquer les bons accompagnements aux enfants. Ce qui est beaucoup plus compliqué quand les enfants ont grandi, voire sont adultes, parce que l'enfant, il reste un enfant, hein, même à 40 ans, il est toujours un enfant de son parent, mais là, il y a de moins en moins de bonnes prises en charge. D'abord parce qu'il y a eu beaucoup de retard de prix, et en même temps parce que ça coûte de plus en plus cher. Surtout lorsque ils n'ont rien à faire en établissement, et dans lesquels ils sont quand même, mais on est absolument sûr qu'effectivement les choses vont peut-être changer, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc dans les établissements, on y fait du gardiennage, mais pour l'instant, on ne pratique pas la stimulation nécessaire à l'évolution de la personne avec autisme, surtout l'adulte. Donc notre rôle, c'est effectivement d'accompagner au mieux les familles, d'entretenir des relations avec les institutions comme la MDPH, comme l'ARS, et de travailler ensemble sur la reconnaissance du handicap et l'évolution des besoins et des prises en charge qui vont avec. Donc on a tout un réseau, effectivement, je dirais deux professionnels, mais qui ne sont pas, conventionnés, qui sont des professionnels de type ergo, les orthophonistes commencent de plus en plus, elles sont prises en charge, mais l'enfant qui a des soucis d'autisme, aujourd'hui, l'orthophonie classique ne les reconnaît pas. Seuls les gens qui sont formés, les bonnes orthophonistes qui sont formés à l'autisme, savent très bien que l'entrée en relation, les codes, passent par leur professionnalisme et permettent aux personnes avec autisme d'y trouver justement les bonnes voies, les bonnes pistes pour établir les contacts, quoi. Et ça, c'est pris en charge, mais le reste ne l'est pas. Les psychologues comportementalistes ne sont pas pris en charge. Et ça coûte quand même une blinde.
On comprend bien qu'il y a une aide professionnelle à avoir pour aider ces familles-là. Au sein même de la famille, selon vous, quelles sont les clés à retenir pour le bien-être personnel donc, de la famille, de la fratrie et des parents, mais également pour le bien-être de l'enfant atteint du trouble du spectre autistique ?
Eh bien, c'est développer ce qu'on nous reproche, d'aimer trop nos enfants. C'est pas plus que ça, c'est on les aime, on y fait attention, on les aime comme les autres et on leur apporte avec leurs différences les méthodes, on les accompagne, on apprivoise l'autisme s'apprivoise. Il s'agit effectivement d'avoir un regard aussi attentif que lorsque on se retrouve handicapé en fauteuil roulant, on va pas laisser son enfant au rez-de-chaussée sans se donner les moyens, effectivement, si la chambre est à l'étage, de pouvoir l'y accompagner. L'autisme, on est dans les mêmes pratiques de l'amour. L'amour, ça guérit tout. Et ça accompagne tout. C'est rien de plus que ça. De l'attention, de l'amour, de l'affection. Et on ne rend pas autiste un enfant parce qu'on l'aime. C'est une théorie qui aujourd'hui est complètement obsolète et qui n'a pas lieu de continuer à il s'agit, voilà, c'est ça, de pouvoir continuer à aimer nos enfants et à leur donner le maximum. Et le maximum, ça passe par être différent, puisqu'on est des parents différents, puisqu'on a des enfants différents. Mais on a aussi des enfants qui sont neurotypiques, qui sont pas différents. Et donc, on adopte les bonnes attitudes de la même façon. Nos facettes de parents d'enfants différents et d'enfants non différents. Et ça se combine très, très bien.
Vous parliez d'apprivoiser l'autisme. Est-ce que justement, il y a un travail de fait avec certaines familles pour qu'il y ait une forme d'acceptation de la condition de l'enfant, des nouvelles conditions de vie, du trouble de l'autisme ?
C'est pas dans la famille que ça pose souci. Dans la famille même, c'est dans le regard des autres. C'est-à-dire que bien souvent, effectivement, on se retrouve, nous, familles d'enfants différents, isolés. Les amis ne passent plus la porte parce qu'il faut prévenir. Et par définition, un ami, c'est celui qui se présente à n'importe quel moment de la journée ou derrière votre porte. Mais là, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il faut anticiper, il faut tout prévoir. Et pour ne pas avoir effectivement de situation anxiogène et embarrassante, on balise le plus possible la vie de l'enfant et donc la nôtre. Et c'est vrai que c'est mal perçu par le monde ordinaire parce que l'imprévu qui est gérable pour le monde ordinaire ne l'est pas pour la personne avec autisme. Ils ont besoin effectivement de marcher sur des traces qui sont balisées. Mais une fois qu'on l'a su, enfin moi j'ai jamais vu un avion atterrir sans avoir une piste de balisage et que ça se passe très bien. Quand il n'y a pas les pistes, on risque le clash. Et ben là on est pareil. Il faut baliser. Mais si ce n'est pas compris par la société qui nous entoure, quelle qu'elle soit, que ce soit le monde du travail, que ce soit le monde de l'école, que ce soit le monde de la famille, effectivement, on reste en marge. Si les gens ne veulent pas allumer les balises, on reste en marge. Mais ça sert à quoi ? On a plein de choses à faire ensemble. Donc, il s'agit de trouver l'interrupteur commun et puis de pouvoir aller dans le même sens, quoi. Mais voilà, ça se fait naturellement. Quand on est obligé de faire comprendre que notre enfant est différent et qu'il a besoin de ces petites lumières qui balisent sa piste, et puis qu'on est obligé de se battre pour, il y a un moment donné, c'est peine perdue quelquefois. Donc, on se replie un peu sur nous-mêmes et puis les gens dans les assos viennent nous en parler. Et puis c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est parce qu'on est là aussi pour entendre ces mots et puis pour essayer de trouver l'interrupteur commun. Quoi, parce que c'est pas possible de vivre dans une société où on doit être tous ensemble, mais qu'en réalité, il y a plusieurs pistes où il y aurait plusieurs pistes et certaines réservées aux autistes, certaines réservées aux handicaps moteurs, certaines... Non, plus... Enfin, pas maintenant, quoi. Mais l'association, elle sert à ça, à redonner la possibilité aux familles qui pourraient avoir le sentiment, mais ce n'est pas un sentiment, c'est vraiment vécu, d'isolement, de trouver effectivement les codes, de pouvoir les expériences des uns servent aux autres. Aujourd'hui, c'est une association de 140 familles, association partenaire d'Autisme France, donc de la grosse association d'Autisme France. Je suis moi-même membre du CA d'Autisme France. Je veux dire, on a des outils, on a des pistes, on a le quatrième plan sur lequel on travaille qui est aujourd'hui pas très bon pour les personnes avec autisme et les familles, et sur lequel effectivement la présidente Danielle Langlois va essayer de tout faire pour qu'on se remette un petit peu dans le bon sens de la marche, quoi. Mais c'est un travail de tous les jours.
Un travail de tous les jours qui se fait notamment auprès de professionnels. Les thérapies et les interventions comportementales peuvent cibler des symptômes spécifiques et apporter des améliorations considérables. Ces améliorations peuvent en partie être apportées par des psychomotriciens. J'ai donc rencontré Justine Duchemin qui nous explique en quoi consiste sa profession et surtout comment les psychomotriciens peuvent venir en aide aux enfants atteints du trouble du spectre autistique.
Un psychomotricien, c'est un professionnel paramédical qui a un diplôme d'état de psychomotricien. C'est un professionnel qui travaille que sur prescription médicale, donc il faut une ordonnance d'un médecin pour pouvoir aller consulter un psychomotricien. On peut accompagner vraiment à tous les âges de la vie, donc du bébé à la personne âgée, les enfants, les adolescents, les adultes. On peut avoir pas mal d'indications pour venir voir un psychomotricien. Donc déjà tout le développement psychomoteur, les différentes acquisitions, que ce soit la marche, la propreté, les acquisitions de l'enfant, le développement psychomoteur. Après, il y a beaucoup d'enfants qui viennent pour des difficultés, par exemple au niveau de l'écriture, des difficultés, que ce soit un handicap mental, un handicap moteur, différentes difficultés d'apprentissage. Des enfants qui viennent pour de la nervosité, un stress, des dépressions, ou alors au contraire des enfants inhibés. On travaille beaucoup au niveau du schéma corporel, de l'image du corps, et puis le repérage dans l'espace, dans le temps. Donc c'est assez varié, c'est encore une fois vraiment à tous les âges de la vie. Après, la spécificité vraiment de la psychomotricité, c'est d'essayer de prendre l'individu dans sa globalité, donc de prendre en compte l'aspect vraiment moteur, l'aspect psychique, et de le prendre vraiment dans son environnement, en incluant sa famille et l'environnement dans lequel il vit. Donc il y a de nombreuses personnes qui sont atteintes d'autisme, qui ont des troubles psychomoteurs, donc il n'y a pas vraiment des troubles spécifiques aux personnes autistes, mais on arrive à voir qu'il y a des troubles de différentes natures et à divers degrés aussi. Donc, le plus souvent, on retrouve des difficultés dans la communication, que ce soit la communication verbale ou non verbale, un contact avec les autres qui va être moins présent que pour d'autres enfants. Il va y avoir des difficultés généralement au niveau du schéma corporel, donc ce qui est la représentation que chacun fait de son corps, un enfant qui va moins bien se repérer dans l'espace, qui va avoir moins d'initiative motrice de lui-même, qui va avoir du mal à accomplir une action sans qu'on lui propose ou qu'on lui demande de réaliser une action. Et puis on en parlait des difficultés d'intégration sensorielle, donc des enfants qui vont avoir du mal à gérer tous les stimuli de l'environnement, les bruits, les contacts physiques. Et il peut y avoir aussi des enfants qui ont... On va retrouver des difficultés au niveau de la motricité fine et qui vont se refléter au niveau des différentes praxies, le graphisme et tout ce qui va se rapporter à la motricité fine. Que ce soit un enfant autiste ou n'importe quelle pathologie, on va commencer par faire un bilan pour évaluer vraiment les différents items psychomoteurs, pour connaître les compétences et les difficultés de chaque enfant et afin de pouvoir rédiger et prévoir un projet personnalisé, un projet thérapeutique adapté vraiment à chaque enfant au plus près de ses besoins. Pour ça aussi, on va travailler vraiment en collaboration avec d'autres professionnels, donc les médecins, l'environnement de l'enfant, donc bien sûr ses parents, les professeurs des écoles qui les accompagnent au quotidien, les éducateurs et puis les autres professionnels paramédicaux comme les psychologues, les orthophonistes ou les ergothérapeutes. Auprès d'un enfant autiste, les objectifs de la psychomotricité, ça va être d'essayer d'améliorer la communication et l'expression, de travailler vraiment la relation aux autres et à son environnement. On va essayer que ces enfants-là arrivent à mieux jouer avec les autres, à augmenter ses capacités d'imitation. De cette façon-là, ça va normalement permettre de diminuer les troubles du comportement, d'essayer en tout cas de diminuer ces troubles-là. On va essayer d'aider ces enfants autistes à découvrir des possibilités au niveau de leur corps, de pouvoir mieux agir avec leur corps, donc par exemple les coordinations, toutes les différentes possibilités motrices, d'essayer qu'ils découvrent un maximum tout ce qu'ils peuvent faire avec leur corps en leur apportant des expériences motrices diversifiées. On va essayer aussi de les aider au mieux à s'organiser, donc à mieux se repérer dans le temps, à mieux se repérer dans l'espace, pour diminuer encore une fois les angoisses liées à tous ces facteurs-là qui peuvent être stressants pour eux. On va aussi essayer de travailler les stimulations sensorielles, parce que les enfants autistes ont souvent des difficultés à gérer toutes les stimulations sensorielles, que ce soit le bruit, les stimulations tactiles, donc on va essayer de leur permettre de mieux intégrer ces stimulations-là et de les gérer au mieux. Une fois qu'on a réalisé le bilan, qu'on a ciblé les objectifs vraiment qu'on veut travailler avec chaque enfant, on va pouvoir commencer la prise en charge et les séances en elles-mêmes. Donc en psychomotricité, on essaye toujours que ce soit le plus ludique possible, de travailler vraiment au travers du jeu, et que ce soit le plus ludique et que l'enfant vienne avec plaisir en séance, c'est vraiment un des facteurs les plus importants. Les médiateurs sont très variés pendant les séances. On essaie de proposer différents jeux, des jeux sensorimoteurs, des jeux au tapis où l'enfant va expérimenter diverses possibilités de se déplacer, on va jouer au ballon, on va faire vraiment des jeux que ferait un enfant classique pour essayer de lui apporter le maximum d'expérience. On peut faire des médiations telles que la relaxation, de la musique, de la danse, tout ce qui va travailler l'expression corporelle. On peut faire des parcours, de la musique, voilà, tout ce qui nous passe par la tête. Il n'y a pas de limite vraiment aux médiations qu'on peut utiliser. Il faut bien penser aussi que pendant les séances avec un enfant autiste, il faut utiliser au maximum des moyens de communication qui vont être adaptés. Donc travailler avec des pictogrammes s'il y a besoin de ça pour travailler la communication et les aider à structurer dans le temps. Donc on va essayer de bien leur expliquer en début de séance tout ce qu'on va faire pour les rassurer au maximum sur l'organisation de la séance. Il n'y a pas vraiment un trouble associé à l'autisme au niveau de la sensorialité, mais il peut y avoir des enfants qui ont une hyposensibilité, donc qui vont moins entendre les bruits que d'autres enfants, ou alors une hypersensibilité, qui vont, pour le moindre petit bruit, sursauter ou être vraiment gênés. On va souvent voir des enfants qui vont mettre les mains sur les oreilles pour se protéger des bruits, alors que c'est un bruit qui, nous, on arrive à peine à percevoir certaines fois. Donc là, ça va être aussi de travailler avec les ergothérapeutes pour proposer des adaptations, donc des casques anti-bruit pour des enfants qui vont être vraiment au maximum, enfin vraiment très gênés par le bruit. Si des enfants au niveau tactile qui vont être gênés au niveau des stimulations tactiles, on peut leur proposer par exemple des gilets lestés ou des couvertures lestées qui vont permettre d'avoir un poids sur eux qui peut les rassurer et les contenir. Donc voilà, c'est vraiment essayer d'adapter à chaque enfant en fonction de sa sensibilité et de ce qui va lui le gêner. Déjà, on peut essayer de rééduquer dans un premier temps. Donc en séance, proposer par exemple des stimulations avec des balles sensorielles, essayer de trouver avec des manipulations de divers objets, des textures différentes pour montrer à l'enfant les possibilités tactiles et les possibilités sensorielles. Ça peut des fois se réguler un petit peu, et puis si ça ne se régule pas et qu'on a du mal à rééduquer, on travaille plus les adaptations de l'environnement pour s'adapter au mieux à l'enfant. Au maximum, on va essayer que l'enfant soit le moins angoissé possible, parce que c'est des enfants qui vont souvent être angoissés. Donc s'ils arrivent à être... Enfin, on va vraiment viser un mieux-être, que ce soit psychique ou physique. Des enfants qui vont avoir moins de stéréotypies, moins de comportements comportement stéréotypés. Essayer qu'ils soient au maximum plus en relation avec les autres et moins isolés. Donc déjà, si on arrive à avoir ça, un enfant qui arrive à mieux imiter les gestes que les adultes lui montrent ou à jouer vraiment davantage avec les autres enfants, ce sera déjà une bonne évolution. Et au maximum le rassurer, savoir expliquer ce qui va se passer dans le futur, pour diminuer les angoisses, diminuer les choses inconnues qui peuvent se passer pour lui dans l'avenir proche.
Bien que les TSA ne se guérissent pas, pour beaucoup d'enfants, les symptômes s'améliorent avec le traitement et l'âge, et n'empêchent pas l'intégration sociale. C'est sur cette notion d'intégration que Thierry Jardin, président d'Autisme Aide 35, a un dernier message à faire passer.
Nous avons été invités par la maison du Ronceret à faire une information collective à des enfants, des enfants de CE1, de CE2, et on a eu 120 enfants qui ont été mobilisés autour de tous les handicaps. Et l'autisme, pour une fois, l'autisme a été, entre guillemets, invité. Et moi, j'ai entendu des gamins, mais de toute origine, pour eux, ça ne leur pose pas de soucis. Ils ont intégré le gamin qui était porteur d'autisme, ils ont intégré les différences. C'est à l'âge adulte qu'on finit par se dire que finalement on est différent, donc on peut pas être ensemble. C'est faux. C'est faux. On doit vivre ensemble différemment, même si on est différent. Donc c'est une leçon que les enfants nous donnent. Et je pense qu'il faudrait effectivement, ça nécessite de faire passer l'information. Mais quand les enfants sont rentrés dans leur foyer et qu'ils ont parlé de leur journée, je pense que si les parents les ont bien écoutés, l'autisme trouvera sa place comme un handicap, qu'il soit visible ou invisible. Pour l'instant, il est invisible, mais qu'il ne soit pas décrié, que les gens n'aient pas peur. L'autisme, ce n'est pas forcément ce qu'on en voit à la télé. Il n'y a pas que des génies, il n'y a pas non plus que des gens qui sont violents. Il y a surtout des méthodes à mettre en place, il y a surtout des comportements à apprivoiser. Et voilà, quoi, je veux dire, mais le vivre ensemble aujourd'hui, on l'entend partout, mais on ne le pratique pas, que ce soit dans les écoles, mais même dans le milieu du travail. Aujourd'hui, nos personnes adultes ont énormément de mal à trouver du travail. Ce n'est pas qu'elles ne sortent pas, c'est que les conditions, elles sortent de chez eux, mais les conditions ne sont pas réunies dans les entreprises. Il n'y a pas un niveau de connaissance pour permettre effectivement... Alors si ceux qui l'ont, comme chez Andros, où ils ont bien compris, mais Andros, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il embauche des personnes avec autisme? Parce qu'il a un fils autiste. Mais on ne va pas tous créer des entreprises pour faire bosser nos gamins. Et ils ont leur place dans toutes les entreprises. Ils ont des compétences comme plein d'autres. Il faut juste se donner la chance de se regarder, de vivre ensemble. C'est ça mon message. Accepter la différence.